Prenons une situation terrifiante, mais tristement banale, sur la route. Imaginons une voiture qui roule à bonne vitesse en matin d'hiver, et soudain, bam, c'est la redoutée plaque de verglas.
Ah oui, le cauchemar absolu. Les pneus perdent instantanément toute adhérence ?
Exactement. Et à cet instant précis, l'instinct de survie humain prend le dessus. Et que dicte cet instinct ? De s'agripper au volant, de le tourner brusquement dans la direction opposée pour essayer de redresser la trajectoire et d'écraser la pédale de frein de toutes ses forces.
Ce qui, d'un point de vue purement physique, est le mouvement exact qui garantit la catastrophe. En fait, en bloquant les roues avec les freins et en braquant comme ça, on annule la moindre chance pour le pneu de retrouver sa friction avec le sol.
Donc on empire les choses.
Totalement. L'effort désespéré pour reprendre le contrôle est précisément ce qui amplifie la perte de contrôle. L'énergie cinétique prend le relais et c'est le crash inévitable.
C'est le paradoxe absolu, non ? On veut forcer une solution immédiate parce que la peur est juste insoutenable. Alors que la seule manière de survivre à un dérapage sur la glace, c'est de faire exactement l'inverse de ce que hurle notre cerveau.
Ouais, il faut lâcher prise.
C'est ça. Il faut lever le pied des freins, garder le volant droit, et c'est le plus dur, tolérer cette sensation terrifiante d'être le passager d'une machine complètement hors de contrôle. Juste le temps que la physique permette aux pneus de raccrocher l'asphalte.
Et c'est profondément contre-intuitif. Accepter d'être passager de sa propre crise, de suspendre son action face au danger vital, c'est l'une des choses les plus difficiles à exiger d'un être humain. L'angoisse réclame de l'action. Le calme, lui, ressemble souvent à de la résignation.
Et cette dynamique, ce conflit permanent entre la panique qui pousse à l'action et la nécessité vitale de lâcher prise, c'est la charpente même de notre exploration d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources.
Je suis ravi d'être là.
Notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire des leçons assez monumentales d'un document qui pourrait sembler un peu aride au premier regard. C'est une analyse théologique très détaillée du docteur John Oswalt qui porte sur les chapitres 30 et 31 du texte biblique d'Ésaïe.
Un texte ancien, oui, mais d'une pertinence frappante.
Grave. Qu'on s'entende bien, on ne va pas faire de l'histoire antique poussiéreuse aujourd'hui. Ce que le docteur Oswalt met en lumière dans nos sources, c'est une étude psychologique foudroyante sur notre besoin viscéral de tout maîtriser, sur la peur panique de l'avenir et vraiment sur la terreur pure que représente le fait de faire confiance.
C'est ça. Ce n'est pas qu'un vieux parchemin, c'est un miroir tendu vers notre comportement hyper moderne. Le chaos quotidien n'a pas disparu, il a juste muté.
Ah ça, c'est clair.
Les menaces existentielles, le stress professionnel écrasant, l'avalanche d'informations qui saturent complètement nos capacités cognitives. Face à tout ce qui nous donne l'impression de glisser sur le verglas, la sagesse dégagée par ces textes propose un remède radical, c'est-à-dire l'art d'attendre.
Et pour comprendre l'ampleur de ce remède, il faut d'abord qu'on pose l'ampleur de la crise de l'époque. Le contexte historique de nos sources, ce n'est pas une simple récession économique ou un petit conflit politique frontalier. On parle littéralement de la fin d'un monde.
Exactement. Il faut s'imaginer, nous sommes quelque part entre 710 et 700 avant notre ère. Et la superpuissance absolue de l'époque, le tyran incontesté, c'est l'Empire assyrien.
Les fameux Assyriens.
Voilà. Et la Syrie ne fait pas que gagner des batailles. C'est une véritable machine de guerre conçue pour l'anéantissement psychologique et physique total. Leur stratégie reposait sur la terreur pure, des déportations massives, des sièges interminables, des tortures publiques.
Un rouleau compresseur, quoi.
Un rouleau compresseur implacable, oui. Et cette armée monumentale est en train de descendre le long de la côte méditerranéenne avec un objectif stratégique majeur. Conquérir l'Égypte, qui est l'autre grande puissance de la région.
Ce qui pose un problème de taille, j'imagine, pour le petit royaume de Juda qui se trouve au milieu.
Un problème fatal. Jérusalem, la capitale de Juda, est située dans les collines, donc géographiquement positionnée juste sur le flanc est de cette immense armée en marche. Militairement parlant, un empire comme l'Assyrie ne peut absolument pas poursuivre sa route vers l'Égypte en laissant une forteresse non conquise sur ses arrières.
Bah oui, au risque de voir ses lignes de ravitaillement coupées.
Précisément, Juda n'est pas nécessairement la cible principale au départ, mais se retrouve tragiquement dans la ligne de mire par simple nécessité géopolitique. Le rouleau compresseur approche et la destruction de Jérusalem semble mathématiquement inévitable.
La menace est donc totalement viscérale. On parle de la survie de leur famille, de la survie de leur nation entière. Alors face à cette annihilation imminente, que fait le gouvernement de Juda ? Spoiler, il ne s'assoit pas en cercle pour méditer.
Ah ça non.
Ils font ce que n'importe quel comité de crise moderne ferait. Ils complotent.
C'est exactement ce que le texte d'Ésaïe qualifie de troisième malheur. Plutôt que de se tourner vers la dimension spirituelle, ou même de chercher une directive divine, les élites politiques de Juda entrent en mode survie frénétique.
En mode panique totale.
C'est ça. Nos sources soulignent comment ils se cachent, métaphoriquement et peut-être même littéralement, dans l'obscurité pour élaborer une alliance militaire top secrète avec l'Égypte. Ils croient sincèrement qu'ils peuvent monter ce plan de sauvetage à l'insu de Dieu. Théologiquement parlant, l'analyse du docteur Oswald relève ici une inversion fascinante des rôles.
Ah oui, laquelle ?
Celle du potier et de l'argile.
Ah, la fameuse métaphore.
Voilà. Dans la vision biblique classique, Dieu est le potier qui façonne l'être humain, qui est l'argile. Mais ici, dans leur panique aveugle, les politiciens de Juda se font eux-mêmes potiers. Ils façonnent leur propre stratégie de survie avec l'Égypte et ils ravalent le divin au statut de simple argile.
Un outil quoi ?
Exactement, un outil malléable qu'ils espèrent utiliser pour colmater les brèches de leur propre plan. Ils ne veulent pas de l'autorité de Dieu, ils veulent simplement son sceau d'approbation sur leur petite manigance humaine.
C'est fou, et c'est une attitude incroyablement courante même aujourd'hui. En lisant ça, je me disais, on dirait des enfants qui ont accidentellement fracassé un objet de grande valeur dans le salon.
C'est tout à fait ça.
Plutôt que d'aller voir leurs parents pour avouer la bêtise, ils ramassent les morceaux en panique, ils descendent à la cave et ils essaient de recoller le tout avec du vieux ruban adhésif en espérant que personne ne remarquera la supercherie.
Ou dans le monde de l'entreprise.
Ah oui, les monts pro. C'est l'employé qui commet une erreur à $1 million et qui passe ses nuits à bidouiller les tableaux Excel en secret pour masquer le désastre plutôt que d'alerter la direction pour trouver une vraie solution.
Le mécanisme psychologique est identique. L'angoisse de perdre la face, ou surtout de perdre le contrôle, nous pousse à bâtir des architectures de sauvetage extrêmement précaires. Combien de fois est-ce qu'on construit des projets de vie entiers, des stratégies de carrière ou des investissements super risqués sans jamais prendre le temps d'une réflexion profonde, qu'elle soit spirituelle ou même juste posée ?
Très souvent, en fait.
Et une fois que l'échafaudage commence à trembler de partout, c'est là que l'on se tourne vers le ciel en disant « S'il te plaît, bénis ce plan de sauvetage que je viens d'inventer de toutes pièces. »
On veut un consultant divin en gestion de crise, pas un directeur. Mais le texte est implacable là-dessus. Cette tentative de se sauver par ses propres moyens n'est pas juste inefficace, elle est suicidaire. Et d'ailleurs, les détails logistiques de cette alliance secrète avec l'Égypte, tels que décrits dans nos sources, ça frôle l'absurdité totale, non ?
Ah, c'est une expédition désespérée et absurde, oui. Le prophète décrit les Judéens qui chargent toute leur richesse, littéralement le trésor national, sur le dos d'ânes et de chameaux.
Pour aller payer les Égyptiens.
Exactement. Et pour éviter les armées assyriennes qui descendent par les routes côtières confortables, cette fameuse caravane diplomatique doit passer par le sud, à travers le Négev.
Et c'est pas une simple balade de santé.
Loin de là. Le Négev est un désert aride, brûlant. Le texte le décrit comme étant infesté de lions, de lionnes rugissantes, de vipères et de serpents volants.
Des serpents volants ?
Oui, l'imagerie est terrifiante. Ils s'infligent un voyage cauchemardesque, risquant littéralement la mort à chaque kilomètre. Et tout cela pourquoi ? Pour aller acheter la protection d'une nation qui, historiquement, à ce moment-là, est déjà sur le déclin.
Mais c'est ça le point clé. L'Égypte n'est même pas une solution viable. Le prophète dit de manière super cinglante que les Égyptiens sont « chair et non esprit ». En fait, ils misent leur existence sur un tigre de papier.
C'est le mot.
C'est un peu comme traverser un champ de mine à cloche-pied pour aller déposer toutes ses économies dans une banque qui a déclaré faillite la veille.
L'analogie est parfaite. Et c'est pourquoi Ésaïe utilise des métaphores architecturales et matérielles très fortes pour décrire la futilité de cette confiance mal placée. La première image frappante de notre texte source, c'est celle d'un haut mur de protection.
Un mur qui est censé les protéger de l'Assyrie.
Voilà. Sauf que face à la pression, le mur que représente l'alliance égyptienne commence à se fissurer et à bomber dangereusement de l'intérieur. De loin, bon, le mur semble peut-être encore debout. Il offre une illusion de sécurité. Mais quiconque s'y appuie sera écrasé. L'effondrement ne sera pas progressif.
Il sera soudain.
Instantané et total.
Et là, la deuxième métaphore est encore plus définitive, je trouve. C'est celle du vase du potier brisé. Nos sources expliquent que, quand cette illusion s'effondrera, le vase se fracassera avec une telle violence qu'il n'en restera pas un seul tesson assez grand pour ramasser des cendres dans un foyer ou pour puiser une simple goutte d'eau. La destruction de leur plan humain sera absolue. Zéro récupération possible.
Aucune.
Mais là, il faut faire une pause. parce qu'en lisant cela, en préparant l'exploration d'aujourd'hui, mon esprit rationnel a protesté violemment.
Ah bon? Ouais. Pourquoi?
L'armée assyrienne arrive. Et tu l'as dit, c'est des bouchers. Ils écorchaient leurs ennemis vifs, ils empalaient les prisonniers. Face à ça, la ligne entre faire confiance à Dieu et être un dirigeant totalement négligent et suicidaire me semble incroyablement floue. Je veux dire, ne rien faire du tout face à un génocide imminent, comment l'inaction peut-elle être une vertu, qu'elle soit politique ou spirituelle?
L'objection est totalement naturelle. Et pour la désamorcer et expliquer la mécanique de l'action divine, le docteur Oswalt fait un parallèle magistral avec un autre récit fondamental que beaucoup connaissent, celui de Moïse frappant le rocher dans le Livre des Nombres.
D'accord, replaçons le contexte de cette histoire.
Le contexte, c'est également celui d'une crise de survie extrême. Le peuple d'Israël erre dans le désert, l'eau vient à manquer, et la soif menace de décimer tout le monde, bétail compris. Moïse demande l'intervention divine, et l'instruction qu'il reçoit est d'une simplicité désarmante. On lui dit « Parle au rocher, et l'eau jaillira ».
Il doit juste lui parler, c'est de l'autorité pure, mais sans le moindre effort physique.
C'est ça. Mais voilà, Moïse sort de sa tente, il voit ce peuple qui murmure, qui panique, qui le critique de toutes parts, la pression monte, son ego de leader est touché, et au lieu de simplement parler au rocher, il s'empare de son bâton légendaire.
Le fameux bâton des miracles.
Oui, il prend une posture dramatique, très théâtrale, et il crie « Écoutez donc, rebelles ! Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Et là, il frappe le rocher violemment, à deux reprises.
D'accord, il frappe le rocher, mais l'eau sort, la crise logistique est résolue, les gens boivent. Alors pourquoi est-ce que c'est considéré comme une faute si grave dans nos sources? Parce que Moïse, contrairement aux politiciens de Juda, il avait un passé de miracle avec ce bâton. Il utilisait les outils que Dieu lui avait déjà donnés par le passé, non?
C'est vrai, et c'est là toute la subtilité de la mécanique du miracle dans ces textes. L'eau sort, effectivement, Dieu sauve le peuple, mais Dieu réprimande Moïse avec une sévérité inouïe.
Il lui interdit même d'entrer en terre promise à cause de ça.
Exactement, et la raison invoquée, c'est que Moïse n'a pas sanctifié Dieu devant le peuple. En frappant le rocher, et surtout en disant « ferons-nous sortir de l'eau », Moïse s'est approprié le mérite de l'action. Il a transformé une démonstration de la grâce divine en une performance de leadership humain.
Ah, je vois. Il a volé la gloire de l'instant pour consolider sa propre autorité face à une foule en colère.
Précisément, et la leçon que le docteur Oswalt tire de cet événement est centrale pour comprendre l'inaction demandée à Juda face à la Syrie. Dans ses récits, le divin attend délibérément que les êtres humains soient totalement, absolument, de manière transparente, à court de ressources.
Le dos au mur.
Oui. Parce que si la solution survient alors qu'il nous reste ne serait-ce qu'une infime carte à jouer ou un vieux bâton avec lequel frapper, l'arrogance humaine va inévitablement s'en attribuer les mérites.
C'est vrai.
Nous dirons toujours « c'est mon intelligence politique, c'est mon alliance stratégique avec l'Égypte, c'est mon coup de bâton énergique qui nous a sauvés ». L'injonction de ne rien faire n'est pas la négligence, c'est la création du vide nécessaire pour que l'intervention divine soit reconnue comme telle.
Waouh! Ce qui nous amène, du coup, à la prescription principale du texte d'Ésaïe, qui est de loin l'instruction la plus dure à avaler, le repos. Face à la Syrie, la directive est claire, nos sources disent que le salut se trouve dans la tranquillité et la confiance. Et comment le peuple réagit-il à cette offre de paix?
Par un refus épidermique. Dans l'hébreu original, le mot utilisé claque comme un coup de fouet. L'eau. Non. Un non catégorique et absolu. Les dirigeants disent « Non, nous fuirons sur des chevaux, nous monterons des coursiers rapides. » L'angoisse exige la vitesse. Ils refusent l'attente et choisissent l'agitation maximale.
Ils veulent appuyer sur les freins et braquer le volant.
Exactement.
Et la réponse qui leur est faite par le prophète est teintée d'une ironie presque cruelle. On leur dit en substance « Ah !» Puisque vous exigez des chevaux rapides pour fuir, eh bien vous en aurez terriblement besoin, car ceux qui vous poursuivront seront encore plus rapides. L'effort même qu'ils déploient pour échapper au danger devient le moteur de leur propre destruction. On en revient exactement à notre métaphore du coup de volant sur la plaque de verglas. Plus on s'agite, plus on accélère le crash.
C'est implacable. Et ce refus d'attendre provoque un basculement théologique majeur dans le texte. Puisque les humains refusent d'attendre Dieu, alors c'est la divinité elle-même qui est forcée d'attendre.
Comment ça?
Le prophète dit que Dieu attend pour vous faire grâce.
Il doit patienter. Il doit laisser les dirigeants de Juda aller au bout de leur logique destructrice, épuiser toutes leurs alliances futiles, jusqu'à ce qu'ils soient enfin prêts, brisés, à recevoir l'aide pure.
Mais la question qui se pose alors, sur un plan purement pratique, c'est comment s'exécute cette attente? Parce que, vu de l'extérieur, attendre a l'air passif. On s'imagine quelqu'un assis les bras croisés pendant que sa maison ou le monde brûle.
C'est l'erreur commune, oui.
Or, l'analogie équestre soulevée dans nos sources montre tout le contraire. Quand on monte un cheval parfaitement dressé, et je trouve cette image magnifique, la communication n'a rien à voir avec la brutalité. On ne tire pas frénétiquement sur le morse, on ne donne pas de grands coups de talon dans les côtes de l'animal.
Non, ça c'est la panique.
Exactement. On pratique ce qu'on appelle l'appui sur le cou. On pose la reine avec une délicatesse extrême contre l'encolure de l'animal. C'est une pression hyper subtile, presque invisible de l'extérieur. Mais le cheval la ressent et tourne.
Cette métaphore illustre brillamment que la véritable attente est en réalité un état d'hyper-réceptivité. Ce n'est pas une léthargie, c'est une écoute active, concentrée. Le texte d'Ésaïe promet d'ailleurs que même si le peuple doit manger, je cite, « le pain de l'adversité » et boire l'eau de l'affliction, l'enseignant suprême finira par se manifester.
Et comment se manifeste-t-il ?
Eh bien, non pas par un coup de tonnerre tonitruant ou un tremblement de terre, mais par une voix douce derrière soi qui murmure simplement « Voici le chemin, marche-y ».
Mais le problème fondamental de cette dynamique, et c'est ce qui rend la chose si dure pour nous, c'est que percevoir une voix aussi douce et subtile, ça exige un environnement interne totalement silencieux. Et c'est mécaniquement impossible quand on est en mode panique.
C'est vrai, le bruit couvre tout.
L'analyse du docteur Oswald mentionne un phénomène cognitif fascinant à ce sujet. Notre cerveau est biologiquement câblé pour détecter la voix humaine en priorité via le système d'activation réticulaire. Si on dort dans une pièce et qu'une radio en fond sonore diffuse un flot continu de paroles, notre cerveau va instinctivement s'accrocher à ces voix. Il va essayer d'en décoder le sens, même pendant le sommeil, créant un bruit de fond cognitif permanent.
Et la connexion avec notre propre angoisse est très directe. Quand nous traversons une crise, notre cerveau simule compulsivement des dizaines de scénarios catastrophes. Il élabore des plans de fuite, il rejoue les conversations en boucle, il cherche frénétiquement comment manipuler la situation à notre avantage.
Le fameux petit vélo dans la tête.
Voilà. Et ce bavardage interne incessant, en fait, ce sont nos propres plans de fuite vers l'Égypte. Et ce bruit intérieur est si assourdissant qu'il bloque physiquement notre capacité à entendre une instruction subtile ou une direction spirituelle. Tant que l'on n'éteint pas la radio de nos propres manigances, la voix douce derrière nous reste inaudible.
C'est super profond. Le lâcher-prise n'est donc pas une soumission aveugle ou une défaite. C'est la création délibérée d'un silence mental. Alors plongeons dans la conclusion historique de ces récits. Parce que c'est bien beau la théorie, mais que se passe-t-il finalement lorsque Juda est acculé au pied du mur, que l'Égypte s'avère totalement inutile comme prévu, et que le contrôle total de la défense est enfin abandonné? Le dénouement est juste vertigineux.
Oh, l'histoire culmine de manière surnaturelle. L'armée assyrienne, cette machine de guerre soi-disant invaincue, est anéantie aux portes de Jérusalem. Les textes historiques et bibliques rapportent que 185 000 soldats tombent en une seule nuit, frappés par ce que le texte appelle une épée qui n'est pas celle d'un homme. Aucune bataille humaine n'a lieu.
Zéro combat.
Rien.
Mais ce qui heurte profondément à la lecture de ce passage, c'est la bande-son de cette destruction. Ésaïe décrit l'anéantissement de l'armée assyrienne, 185 000 cadavres, je rappelle, et il associe ce massacre au son de tambourins et de lyres.
Des instruments de fête.
C'est ça. Il décrit cela comme un immense festival religieux, avec des chants de joie. Mettre de la musique festive sur une scène de mort aussi massive, c'est profondément troublant, presque macabre pour un lecteur moderne. Comment la théologie justifie-t-elle cela dans nos sources ?
L'explication se trouve dans la richesse de la langue hébraïque, et plus particulièrement dans le mot « pakad ».
Pakad.
Oui. C'est un terme que l'on traduit souvent par « visiter » en français, mais son champ sémantique est beaucoup plus vaste que ça. Pakad implique une inspection, une remise en ordre, un jugement. Imaginez le grand général d'une armée qui débarque à l'improviste pour passer ses troupes en revue.
L'inspection surprise ?
Exactement. Sa visite n'est pas une simple salutation cordiale. Elle vise à débusquer la corruption, à rétablir la discipline et à réorganiser les rangs qui étaient dans le chaos. La chute de la Syrie n'est donc pas décrite comme une simple tuerie vindicative, mais comme l'inspection cosmique de l'univers, où l'ordre divin écrase brutalement le chaos humain.
D'accord, je comprends l'idée de justice cosmique, mais Et la musique, les tambourins, les lyres, pourquoi se réjouir comme ça?
La louange éclate pour une raison philosophique bien précise. L'absence totale de contribution humaine. Les Judéens n'ont pas dégainé une seule épée, leurs manigances secrètes dans la cave et l'or envoyé à Dodane en Égypte n'ont joué absolument aucun rôle.
Ils n'ont servi à rien.
À rien du tout. La délivrance s'est produite indépendamment d'eux. La grande leçon du docteur Oswald ici, c'est que lorsque nous passons notre vie à résoudre nos problèmes par nos propres ruses ou notre propre force, nous nous voulons l'opportunité d'être émerveillés.
Waouh !
En gardant jalousement le contrôle du volant, bon, nous survivons peut-être sur le moment, mais nous nous privons de l'expérience de la grâce, de la possibilité même d'adorer quelque chose de plus grand que notre propre petite intelligence. La joie explosive avec les tambourins vient du fait que la survie est reçue comme un pur don gratuit et non comme une réussite humaine.
C'est fascinant. Cela renverse complètement notre perception de la compétence et de la réussite. Et si l'on rassemble toutes ces pièces, la figure de l'Égypte dans cette étude ne désigne pas simplement une entité géopolitique du 8e siècle avant notre ère. L'Égypte devient l'archétype de tout ce qui nous sert de filet de sécurité illusoire.
Absolument. Et nos Égyptes contemporaines prennent des formes variées et souvent très respectables.
On ne cherche plus des chameaux avec de l'or.
Non, aujourd'hui, ce sont nos réserves financières soigneusement accumulées, c'est notre réseau d'influence sur LinkedIn, c'est notre position hiérarchique au travail, ou plus profondément, notre arrogance intellectuelle.
Cette certitude absolue de pouvoir tout gérer.
Notre conviction inébranlable que nous sommes assez intelligents pour nous extraire de n'importe quel gouffre. Mais face aux véritables tempêtes de l'existence, face à la maladie grave, au deuil ou à une perte soudaine, ces choses se révèlent être de la simple chair face à l'esprit. Elles sont fragiles, éphémères et totalement incapables de porter le poids de notre salut.
Et l'ironie la plus cruelle, comme l'a démontré le fameux voyage absurde dans le désert du Négev, c'est que l'énergie colossale que l'on dépense pour s'agripper à ce faux contrôle nous épuise, nous terrifie et finit souvent par provoquer très exactement ce que nous cherchions à fuir au départ.
Le docteur Oswald conclut d'ailleurs cette analyse avec un axiome implacable. La honte est le résultat d'une confiance qui a échoué.
Ouf, c'est puissant.
Oui, la honte et le désespoir ne proviennent pas de notre faiblesse inhérente. Ils naissent du moment précis où la chose sur laquelle nous avions fondé notre certitude absolue, qu'il s'agisse d'une alliance politique secrète, d'un compte en banque bien garni ou de notre propre ego, se brise en mille morceaux, comme le vase du potier, révélant soudain sa nature totalement inadéquate.
Une confiance qui échoue parce qu'elle était placée sur les mauvaises fondations depuis le début. L'implication de tout ça est juste vaste. Et pour clôturer cette plongée aujourd'hui, j'aimerais déplacer le projecteur sur un angle qui n'est pas directement abordé dans l'étude, mais qui en est vraiment la conséquence directe dans notre monde actuel.
Je t'écoute.
Aujourd'hui, on vit dans une société algorithmique qui pénalise sévèrement l'attente. Qu'il s'agisse de la bourse, du cycle continu de l'information ou des algorithmes de nos réseaux sociaux, l'inaction est toujours perçue comme une défaite. On nous récompense pour la réaction immédiate, pour l'opinion donnée à la seconde, pour la décision hyper rapide.
La fameuse prime à la vitesse.
C'est ça. L'architecture même de notre technologie est conçue pour stimuler le coup de volant frénétique au moindre dérapage. Alors, si la sagesse millénaire de nos sources affirme que l'ultime sécurité nécessite un silence actif et un lâcher-prise total, tandis que toute l'ingénierie de notre monde moderne nous conditionne biologiquement et socialement à faire exactement le contraire, sous peine d'être laissé pour compte, eh bien, une grande question se pose.
Laquelle ?
Seulement, encore la capacité cognitive ou même le simple courage de retirer les mains du volant pour écouter le silence.